À l'Université de Poitiers, le service Handicap étudiant accompagne tous les étudiants ayant une problématique de santé dans la mise en place d'aménagements d'études et d'examens. Que ces handicaps soient temporaires, permanents, visibles ou invisibles, les étudiants peuvent nous contacter. Le handicap invisible peut se définir comme quelque chose que l'on ne peut identifier au premier abord, et contrairement aux idées reçues, cela représente 80% des handicaps. À travers différents témoignages d'étudiants en situation de handicap invisible, nous vous proposons d'en découvrir un peu plus sur la réalité de leur accompagnement.
Je m'appelle Pierre, actuellement je suis étudiant en master IPHD, donc inclusion, participation, handicap, difficulté et dépendance, qui est à l'INSPE de Poitiers, mais qui est sur le campus de Niort. Avant ça, entre 2017 et 2020, j'ai fait une licence art du spectacle à Poitiers. Après, je suis parti à Rouen faire un master en direction de projet culturel que j'ai obtenu. Ensuite, j'ai travaillé pendant 2 ans en tant que pion. On dit le terme police et assistant d'éducation, mais c'est pion. Et après, j'ai été collaborateur pour des élus de gauche, pour les élus de gauche au département de la Vienne. Et j'ai repris mes études. Je suis bébé des Paquines, donc ma mère prenait des Paquines quand elle était enceinte de moi. Donc il y a eu des répercussions, etc., en termes de comment je me déplaçais, comment j'ai eu les motricités fines, etc. Mais je m'en sortais bien à l'école. Enfin, là où c'était vraiment galère, c'était sur la question plutôt de la motricité, donc notamment tout ce qui va être en sport et en mathématiques, tout ce qui était en lien avec de la géométrie, par exemple. Là, c'était vraiment compliqué. Mais je m'en sortais sur le reste. Moi, j'étais sur un truc de bon, bah, juste pas bon, et puis c'est pas grave. Et en sixième, on a commencé à se questionner. Moi, à ce moment-là, j'ai fait le choix de pas aller plus loin que ça parce que, bah, j'avais déjà dans ma famille des gens qui étaient en parcours de diagnostic et je voyais la galère que c'était. Donc, je me suis dit que j'avais pas envie de faire ça. J'étais dans une situation familiale pas simple à ce moment-là. En première, la question s'est reposée. Ça se pose, on a la moitié de l'année, je dis attends, entre le moment où je vais me faire diagnostiquer, on va faire le CLMDPH, je vais arriver en licence, en fait on se fait non, pour le bac ça va être plus du stress qu'autre chose, et arriver à la fac, là en licence du coup on passe une barre différente, parce que autant au collège, lycée, dans ma tête on est un peu sur quelque chose de, en fait t'apprends les cours et tu les recraches pas tel quel, mais globalement c'est très très basé sur ce que t'as appris en cours, là où à la fac on te demande un peu plus de prendre par toi-même, donc de l'autonomie dans le travail, etc. Et là j'avais pas des stratégies de travail qui étaient adaptées. Là en fait ça commence à vraiment te poser problème, donc faut y aller, et on tombe dans le moment où il y a le Covid, où je pars à Rouen, donc à 4h30 de chez moi, donc je connais personne, donc je pousse la porte à ce moment-là à l'université de Rouen d'Andisup, et du coup bah, j'ai été accompagné, j'ai réussi à me faire diagnostiquer en 2 ans quand même, donc je me suis fait diagnostiquer en février, le 22 février je crois, officiellement le 22 février 2022. Le diagnostic, il est notamment aidé par une psychomotricienne qui n'est pas médecin, donc qui ne peut pas poser de diagnostic, mais qui a quand même bien aidé, notamment sur la question du TDAH, donc du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Et ensuite, je me fais diagnostiquer officiellement par le CRA, donc le Centre Régional d'Autisme de Haute-Normandie, pour le coup. Donc on me diagnostique à ce moment-là un trouble du spectre autistique, un TDAH et aussi... C'est lié de façon une dyspraxie. D'où la motricité fine, du coup. Quand je commence ma formation à l'Université de Poitiers, je ne suis pas diagnostiqué. Donc il n'y a pas de lien. Et je m'en sors en soi. Moi, je suis sur un truc de bon, oui, ok. Bon, faut donner son avis sur les cours, c'est pas trop un problème pour moi, mais dès qu'on commence à rentrer dans des dynamiques de travail de groupe, d'exposé notamment, où là ça demande du temps, de réflexion, etc., et notamment de stratégie de recherche, etc., bah là ça devenait un peu plus compliqué. Par exemple, là j'ai des cours de 3 heures, c'est pas possible. Enfin, moi je sais que quand je travaille chez moi, je suis capable d'être de bosser 6 heures dans une journée, ce qui est quand même pas mal en vrai, mais par contre ça va vraiment dépendre de ma fatigue, ça va dépendre de mes humeurs, et aussi spécifiquement je vis à Poitiers. Donc je fais les allers-retours tous les jours à Niort. Donc, clairement, le mercredi soir, je suis cramé, quoi. Enfin, le mercredi soir, je rentre à 18h, ça fait 3 jours que je me réveille à 5h du matin, je n'ai pas la capacité de travailler. Ce qui, du coup, implique des stratégies de travail, plutôt les jeudis où je n'ai pas cours, et les week-ends. Mais sinon, oui, ça va vraiment être la concentration. Parfois, dans les relations humaines avec les profs, même si généralement ils sont au courant, Puis bon, je suis dans un master, on parle de handicap, donc si les profs sont pas en capacité de faire attention à ça, ça c'est quand même particulier. Mais ça va être, ouais, dans les questions où parfois, soit je suis trop explicite dans mes questions, genre je suis très brut et du coup je donne pas le contexte de ma question, soit ou alors je veux faire attention à donner le contexte et du coup je me paume dans la question, je sais plus du tout où est-ce que je voulais aller. Donc au début, je sais que j'avais des strates de noter un peu, genre d'écrire ma question, mais du coup bah j'écoute plus ce que dit le prof, du coup c'est compliqué. Mais sinon, dans les faits, le service handicap étudiant met en place des choses, notamment avec mes camarades, on a toutes et tous des prises de notes communes qui sont sur un drive, donc en fait on a déjà trouvé une stratégie de base sur ça. Je viens de l'éducation nationale, enfin, j'ai été pion pendant 2 ans, je vois les galères que c'est pour les élèves de passer, enfin, entre le moment où il y a le diagnostic, il y a les dépôts des dossiers, il y a les machins, il y a 6 mois, c'est la galère. Et là, en 6 jours, c'était fait, quoi. Enfin, j'ai pris le rendez-vous avec le service handicap étudiant, j'ai un lien avec un conseiller. Ensuite, je suis allé voir alors ça s'appelle plus la SSU, mais du coup, le service universitaire de santé universitaire, là. Ils ont dit OK pour les aménagements, etc. Et c'était fini, quoi. Donc, puis même une fois, j'ai dû y retourner à un moment donné pour redemander un autre aménagement. J'ai même pas eu besoin d'y retourner. J'ai envoyé un mail. Ça s'est vu entre. Enfin, du coup, c'est fait de manière extrêmement fluide. Et je trouve que c'est quelque chose qu'il faut aussi noter. Et je dis pas uniquement ça parce que je suis en train de faire un podcast avec le SHE. Mais aussi, il faut le noter. Il y a tellement de moments où c'est pas le cas, où ça fonctionne pas, dans d'autres secteurs autres que l'Université de Poitiers. Et en fait, de voir qu'il y a une vraie attention et que c'est simple et qu'on... Enfin, c'est pas une charge mentale supplémentaire. Et ce qui est un vrai luxe, en vrai, de pas avoir cette charge mentale supplémentaire. Donc voilà. Les aménagements que j'ai dedans, il y a la prise de notes par des camarades. Bon, bah, ça c'est réglé, on le fait tous. Le fait d'avoir l'autorisation d'avoir mon ordinateur en TD et en CM, je n'ai pas eu besoin de négocier ça avec mes profs de base parce que tout le monde a un ordinateur et voilà. Et j'ai un troisième emménagement de cours, je crois que c'est à peu près tout. Si, ouais, si j'ai l'autorisation d'arriver en retard, de pas aller en cours pour des raisons de santé ou d'arriver en retard, etc. Pour les partiels, j'ai une autorisation de sortie d'examen, enfin de la salle, de faire des pauses régulièrement, qui seront ensuite décomptées, enfin décomptées ensuite sur le temps de l'examen, dans la limite d'un tiers temps. Donc par exemple, si j'ai 3 heures d'épreuve, ce qui va être le cas, je peux faire jusqu'à 4 heures d'épreuve en tout. Mais si par exemple je sors 50 minutes, bah, j'ai 50 minutes de rattrapé. Si je sors 1 heure, bah, j'ai 1 heure de rattrapé. Par contre, si j'ai 1h20 en tout, bah, j'ai qu'une heure de rattrapé. Voilà, quoi. Mais moi, je voulais pas prendre le tiers temps de base, parce que je le trouvais pas pertinent, dans le sens où ce qui me pose problème, moi, c'est pas le temps, c'est les moments où je me déconcentre, les moments où je sors, etc. Donc vaut mieux à ce moment-là que je sorte de la salle, histoire que je sois un vrai temps où je suis pas là, je me prends un café, je vais respirer un peu, etc. Vaut mieux que j'ai ce truc-là, plutôt que d'avoir dans l'idée que j'ai un temps en plus, etc. J'ai toujours eu un petit groupe de potes fixe plutôt que plein de groupes potes, et c'était je suis quelqu'un de très social aussi, et ça a eu des impacts assez positifs. Par exemple, l'un des impacts du TDA me concernant, c'est le fait que pendant toute mon année de licence, j'ai fait énormément de choses. Hein. Genre, je partais de chez moi, il était 6h du matin alors que j'avais cours à 9h, mais parce que j'allais à Pulsar, parce que je faisais d'autres choses. En fait, ça me donnait ce qui du coup m'a créé des habitudes de travail autres, etc. Mais aussi par l'expérience, par le fait de faire, etc., de rendre les choses un peu concrètes. Après oui, dans mes relations avec les profs, avec les amis, des moments où il se passe des trucs que je comprends pas, puis c'est des choses où c'est un peu ambivalent, assez binairement, même si c'est plus subtil que ça, il peut y avoir des moments où t'as envie de réagir tel que t'as envie de réagir de base, et tu te rends compte que c'est pas adapté, donc ok, tu vas t'adapter autrement, mais tu te rends compte que soit t'as pas compris le contexte dans lequel on était, et du coup tu t'adaptes pas bien, donc il y a toujours des moments où... soit tu te respectes pas complètement parce que tu fais tel que tu penses qu'il faudrait faire, mais en fait c'est pas comme, enfin c'est ok, très bien, t'as répondu à la norme sociale, mais ce n'est pas toi. Et si t'es vraiment toi, bah parfois c'est un peu plus compliqué, etc. Moi j'ai pu avoir ces choses-là en cours. Ça allait parce que je comprenais un peu vers où voulaient aller les profs. Après, aujourd'hui, je sais qu'il y a une façon de désamorcer un peu en disant peut-être que la question ne sera pas pertinente, etc. Ce qui est un peu de la malhonnêteté de dire ça, dans le sens où aucun prof va te dire « Ah non, c'est vrai qu'elle est débile ta question ». Enfin, genre, c'est possible, mais dans ce cas-là, c'est une autre dynamique de prof qui est particulière, et que fait cette personne en cours, du coup. Oui, là, c'est plus dans les relations interpersonnelles, amicales et familiales où oui, ça a été un... plutôt amical parce que la famille, ils me connaissent depuis tout petit, donc ils voient comment je fonctionne, etc. Donc, puis il y a un peu les tabous dans la famille de dire, ah là là. Mais dans les relations amicales, ouais, là par contre, ouais, ça a pu être compliqué, notamment au collège-lycée, ça a été compliqué. À la fac, c'est différent parce que bon, on apprend à se connaître autrement. À la fac, il y a quand même une autre ambiance qu'au collège ou au lycée, en termes de maturité, en termes de tout ça, on est. Voilà. Après, j'avoue que vraiment, le fait d'avoir eu 5 ans, là, parce qu'il y a eu le diagnostic, après, j'ai eu vraiment 4 ans de passage un peu à vide où ça a été assez compliqué, parce que je me fais diagnostiquer tard, quoi. Je me fais diagnostiquer, j'ai 23 ans, donc c'est compliqué de prendre en main les choses, genre de, ok, d'accord, bah, on va devoir faire ça, du coup, très bien. Donc, j'ai eu un peu, ouais, des passages de phase de down, de descente assez dure. Là, ça va mieux, là, depuis le début de l'année, ça va mieux, mais aussi parce que, je retombe dans une dynamique où c'est bon, là, je travaille, je fais des choses concrètes, etc. Et du coup, ça a pu être compliqué à ce moment-là. Mais maintenant, je suis capable de poser des mots. Et j'ai travaillé pendant 3 ans dans un contexte en tant que pion où j'étais vraiment dans un contexte où tu travailles en équipe. Enfin, on était une dizaine en équipe, on n'était pas tout le temps 10 à la vie scolaire. On était 10 à travailler ensemble. T'es obligé, au bout d'un moment, d'avoir des stratégies communes pour pouvoir s'y retrouver, pour les différentes missions de chacun et de chacune. T'es obligé de faire ça. Et à côté de ça, j'ai ensuite bossé en tant que collaborateur d'élu, où là j'étais tout seul. Donc j'ai eu cette possibilité-là et ce luxe d'avoir, en l'espace de 3 ans, c'est plus ça le luxe, eu des modes de travail complètement différentes. La responsabilité que j'avais, c'était de dire, moi je suis pas capable de faire ça, j'ai besoin que si on me demande ça, on me le demande explicitement. Donc aussi des stratégies de discussion parfois avec ces cadres, où ils viennent vous dire, putain... Je vais te répéter plusieurs fois les mêmes choses, on te l'explique une fois, apparemment c'est pas assez précis, pas assez machin. Donc moi à ce moment-là je fais, ouais, enfin, j'ai une RQT, enfin je peux pas, enfin, excusez-moi, ce que vous faites est du validisme, à un moment donné là je vois pas comment être, enfin, moi ma mission elle est de vous donner mes contraintes et de vous dire de quoi j'ai besoin. Vous, si vous êtes pas capable de comprendre ça, bah désolé, mais je vais pas faire plus d'efforts que ça et bah c'est pas grave, on fera mal, mais ce sera pas de ma faute. Il y a une chose qui est claire pour moi depuis cette année, c'est je ne ferai pas les choses au détriment de ma santé mentale. Si j'estime que je suis pas bien, bah je le ferai pas. Enfin, et en fait, je le ferai quand je serai bien. Alors oui, ça impliquera peut-être que je vais me prendre une caisse en cours. Bah je me prendrai une caisse en cours, mais moi, avoir des notes pour avoir des notes, absolument, c'est pas... Enfin, je serais très content, enfin mon objectif évidemment d'avoir mon master, enfin bien sûr, mais pas à n'importe quel prix. Quand j'étais accueilli au SHE, il y a eu quelque chose d'assez cool de, en fait, c'était à moi de dire quel était mon handicap, c'était à moi, enfin, en fait, il y avait quelque chose de, ok, de quoi t'as besoin, enfin, c'était vraiment quelque chose, on s'intéressait assez à qui j'étais et pas ce que je portais comme trouble. Contactez les personnes en qui vous avez confiance, en fait, c'est surtout ça, et je pense que le SHE est des gens en qui on peut avoir confiance, c'est un service en lequel on peut avoir confiance. Il y a des référents handicap dans vos UFR, il y a tout ça, en fait, il y a un service, sur l'université de Poitiers, il y a vraiment des choses qui sont mises en place.
Ce podcast a été réalisé par l'Université de Poitiers et sera disponible en ligne sur notre site. Un grand merci à tous les étudiants ayant participé. N'hésitez pas à nous contacter si vous en ressentez le besoin.